enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais ce soir vous apporter un message que j'avais tout au long de la semaine, en tout cas reçu sur mon cœur. C'est Jésus, un ami précieux. Et j'aime parler de Jésus, l'ami qu'il est, parce qu'il est réellement un ami. Et j'ai cherché une définition dans le dictionnaire pour connaître ou pour essayer d'approfondir ce que veut dire le mot « ami ». Alors évidemment, tout le monde, intellectuellement, sait ce que veut dire être un ami. Mais nous allons un peu développer cette notion d'être un ami ce soir. Et dans le dictionnaire, il y a marqué ceci « personne qui, de la part d'une autre, est l'objet d'un attachement privilégié, celui qu'on aime ou qui aime. » Pour l'instant, pas de problème. Alors j'ai essayé de chercher dans différents livres ou dans mes lointains souvenirs des personnages qui étaient entre eux des bons amis. Et les seuls desquels je me suis rappelé, finalement, ce sont des personnages un petit peu virtuels. Soit des personnages de bande dessinée, soit des personnages d'épisodes que j'avais eu l'occasion de regarder à la télé. Alors, notamment des personnages virtuels, des amis, il y a Astérix et Obélix, que vous connaissez, hein. Et puis pour ceux qui sont peut-être un peu plus anciens dans cette honorable assemblée, il y a Laurel et Hardy. Hein, pour ceux, je vois qu'il y en a qui connaissent, hein. Et puis il y avait le fameux couple Zorro et Don Diego de la Vega. Hein, vous vous rappelez ? D'ailleurs, Zorro avait du mal à communiquer avec Don Diego puisqu'il ne pouvait pas parler. Donc il parlait en langage des signes. Mais ce sont là, évidemment, des amitiés qui sont quelque peu virtuelles. Et ce que j'aimerais dire face à ces amitiés-là, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement vécu une relation d'amitié avec quelqu'un et qui ne trouvent pas dans les difficultés qu'ils peuvent vivre quelqu'un avec qui, comme avec un ami, ils peuvent partager, eh bien vont de temps en temps chercher des relations qui peuvent être virtuelles. Au travers d'Internet, au travers de romans, au travers de je ne sais quoi encore. Et puis, il y a des amitiés qui nous parlent de personnages et d'animaux. Des amitiés connues également. Il y a Tintin et Milou. Ah, vous connaissez. Et puis, il y a Lucky Luke et Parent en plan, mais Jolly Jumper. Il y a Boulet Bill, qui ne connaît pas Boulet Bill. C'est l'amitié qui s'est installée entre un personnage connu et un animal connu. Et j'aimerais dire également face à cela que, et je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il m'arrive de temps à autre d'entendre de certaines personnes qui auprès d'autres personnes n'ont pas trouvé cette relation d'amitié ou ont été déçus par une relation d'amitié, de dire bien finalement, moi j'ai acheté un animal et je préfère rester avec mon animal plutôt que d'être avec des êtres humains. Parce que j'ai tellement été déçu par l'être humain. Alors je m'attache à mon animal, lui au moins il est fidèle. Hein, vous n'avez jamais entendu ça ? J'aimerais prendre un texte qui se trouve dans Jean chapitre 15 verset 12 et qui dit ceci. Jean, chapitre 15, verset 12. Je le dis lentement pour les traducteurs. Jean, dans le Nouveau Testament. Entre la Genèse et l'Apocalypse. Il est dit ceci. C'est ici mon commandement. Écoutez bien, c'est le commandement de l'Éternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, et ça c'est une bonne nouvelle. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, et ceci afin que nous soyons les amis de Dieu, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce texte nous dit que si nous voulons être les amis de Dieu, il nous faut accomplir ce qu'il commande. Et ce qu'il nous commande, eh bien, c'est d'aimer notre prochain. C'est de porter du fruit et du fruit qui demeure. J'aime ce chant qui dit « Je suis l'ami de Dieu ». Le nouveau chant. Hein, « Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. » C'est peut-être une des seules fois où vous m'entendrez chanter en solo. Et j'aime ce que dit le refrain de ce chant, il dit ceci, « Quand je suis, qui suis-je, que tu sois attentif à moi ?» Quand je t'appelle, tu m'entends. Il est vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes. C'est beau, n'est-ce pas? Et moi, j'aime être l'ami d'un Dieu qui pense à moi et qui prend soin de ma vie. Et je veux obéir à ce texte que nous avons lu tout à l'heure et qui dit que pour être l'ami de Dieu, il nous fallait porter du fruit et du fruit qui demeure, à savoir aimer notre prochain. Moi, je vous ai choisi. Voyez-vous, porter du fruit ne consiste pas d'abord à faire plein de bonnes œuvres. Je suis en ce moment travaillé par le Saint-Esprit dans ce domaine-là en particulier. Le Saint-Esprit me dit en particulier que ce qui est important, ce n'est pas d'abord de se précipiter à faire, certes, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et qui sont bonnes et seront en bénédiction pour les autres si nous les accomplissons. Mais ce que Dieu nous demande d'abord, c'est de porter du fruit. Et le fruit, selon Galates chapitre 5, verset 22, ce n'est pas de faire des bonnes œuvres, mais le fruit, selon Galates 5, 22, c'est de porter le caractère de Jésus en nous. Il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Êtes-vous joyeux ce soir? Amen. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et quand Dieu nous demande de porter du fruit qui demeure, afin de devenir les amis de l'Éternel, il nous faut alors mettre en pratique cette capacité de recevoir Jésus qui, par sa présence en nous, nous permet de porter ce fruit que nous venons de lire. Amen. Je pense qu'il y a, et c'est ce que dit la parole de Dieu, des personnes qui n'ont pas réellement reçu le Seigneur et qui sont peut-être là ce soir. La parole de Dieu dit de ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu et qui n'en sont pas remplis qu'ils ressemblent à un homme animal. Autrement dit, quelqu'un dont l'intelligence n'a pas été pleinement renouvelée et qui n'a pas reçu de la part de Dieu la capacité de comprendre qu'il est important de porter du fruit et pour cela, eh bien, d'être rempli de la présence de son Esprit. Alors il fut un temps, fait un petit jeu avec vous pour parler de l'homme animal. Et rappelez-vous, j'avais utilisé quelques expressions animales qui, finalement, lorsque nous les analysons, eh bien, sont relativement négatives parce qu'elles représentent le comportement de l'être humain alors qu'il ressemble à un homme animal parce qu'il n'a pas été régénéré dans son intelligence. Je vous parlais notamment, pour illustrer un peu ce que je dis, de celui, par exemple, qui mange à table de manière sale. On dit qu'il mange comme un cochon. Et puis celui qui médit, ou qui dit des paroles médisantes, on dit qu'il a une langue de vipère. Et puis il y a celui qui fait souvent le clown. Et je ne viserai personne en disant cela. On dit de lui que c'est un zèbre. Ou alors il fait le singe. Quelqu'un qui a été l'objet d'un coup fourré ou d'un coup monté. On dit qu'on lui a fait un lézard. Connaissez l'expression ? Ça y est, il m'a de nouveau fait un lézard, ce gars-là. J'avais rendez-vous avec lui, il n'est pas venu. On peut aussi dire un lapin. Hein ? Ah, je vois que vous connaissez les lapins. Hein ? Quelqu'un qui fait un coup tordu, on dit de lui qu'il a été vraiment vache. Ce sont là quelques expressions animales qui, quand elles sont citées, en tout cas à notre égard, dénotent quelque chose qui est relativement négatif. Et en tout cas dénotent un comportement qui a été pour l'autre des plus déplaisants. Et c'est ce que nous sommes quand notre intelligence n'a pas été renouvelée. Quand nous ne portons pas en nous le Saint-Esprit qui, lui, nous donne la capacité d'aimer notre prochain. Et de ne pas lui faire des coups vaches ou lui poser des lapins. J'aimerais également, pour illustrer ce que je voudrais dire, eh bien aller plus loin. Je pense également que l'on peut, lorsque l'on n'appartient pas réellement au Seigneur, porter du fruit qui ne demeure pas. Autrement dit, du fruit qui peut-être visiblement semble beau au départ, mais qui rapidement, eh bien, commence à pourrir et évidemment à perdre de sa saveur. Et il y a également des expressions fruitières. Autant il y a des expressions animales, eh bien, il y a des expressions fruitières. Tiens, on dit de quelqu'un qui est très mince qu'il est fin comme un haricot. Et si en plus il est élancé, on dit que c'est une asperge. Ou quelqu'un qui est physiquement plutôt bien enrobé, on dit que c'est une... Alors, citrouille, c'est vraiment bien, bien enrobé. Hein, plutôt une patate. Hein. Mais combien souffrent parce que finalement, n'ayant pas trouvé d'amis... Simplement parce que physiquement, ils sont différents des normes établies. Alors, qu'est-ce que sont les normes établies aujourd'hui ? Hein, les normes correctement établies aujourd'hui, c'est le gars taillé en V, un peu comme moi ce soir. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi vous rigolez. Je reconnais que je suis un peu taillé plutôt en U, hein, mais en B. Ou alors les normes féminines, ce sont les femmes qui, aujourd'hui, 48 kilos, 1m78. C'est plus maigre comme des haricots, hein. C'est maigre comme des fils de haricots. Mais combien ont souffert parce que ne répondant pas aux normes établies par les médias, par les magazines People, combien, parce qu'ils ne répondent pas à ces normes-là, eh bien, ont été rejetés et n'ont pas trouvé d'amis en qui ils pouvaient se confier. On peut dire également de quelqu'un qu'il a la forme, qu'il a la pêche. Mais combien également ont une pêche d'apparence ? Apparemment, ils sont en forme, tout va bien. Mais quand ils arrivent chez eux et qu'ils se retrouvent devant leur miroir, parce que simplement ils montrent une apparence devant les autres, eh bien, ils sont tellement malheureux en eux. Il y a également quelqu'un qui se ment à lui-même. Quelqu'un qui se ment à lui-même, c'est quelqu'un qui se raconte des... Est-ce que l'histoire, c'est un fruit ou un légume ? Des salades. Quelqu'un qui se raconte des salades. Quelqu'un qui se ment à lui-même et qui essaye pour être accepté des autres parce que finalement il n'est pas arrivé à trouver des amis. Quelqu'un qui soit capable de l'aimer et de l'écouter comme il était, eh bien de changer son identité et de se raconter à lui-même et aux autres, en l'occurrence, des salades. Des choses qui finalement ne correspondaient pas à ce qu'il était réellement. Il y a également quelqu'un qui n'arrête pas de s'occuper des affaires des autres. Hein, c'est quelqu'un à qui l'on dit « occupe-toi de tes oignons ». Merci Paul, je ne citais personne en disant cela. Mais là aussi, combien de personnes ont l'air quelque peu accaparant ? Non pas parce que forcément ils veulent s'occuper de vos affaires, mais parce qu'au travers de leur attachement excessif, finalement, ils ne font que chercher une amitié, un contact. Ils désirent être aimés de quelqu'un comme ils sont. Alors oui, certainement, ils ont l'air, de par leur attitude, d'être comme ceux qui s'occupent des affaires des autres. Mais cela peut n'être finalement qu'un cri d'au secours. Un cri de secours qui veut dire, ben, si je m'approche de toi, si je t'accapare, c'est simplement parce que dans mon cœur, mon désir, c'est que tu t'occupes de moi et que tu me regardes. Quelqu'un qui subit la pression et qui est pressé comme un citron, ça aussi c'est un mauvais fruit, utilisé comme un citron, pressé comme un citron. Combien ont vécu des souffrances et des douleurs terribles parce qu'ils ont été aimés pour finalement ce qu'ils apportaient à l'autre. Dans les couples, les femmes utilisées, pressées comme des citrons, « je t'aime pour ce que tu m'apportes ». Les maris, utilisés par les épouses, « je t'aime pour ce que tu me donnes ». Et puis quand tu as donné tout ce que tu pouvais me donner, finalement, je vais voir ailleurs, quand je t'ai pressé comme un citron. Pas d'amour, pas d'amitié, mais uniquement de l'intérêt. Quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui peut devenir rouge comme une tomate. Combien également n'osent pas s'exprimer, n'osent pas parler. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'ils parlent ou commencent à s'exprimer, ils ont peur de dire des bêtises. C'est une timidité qui peut être le résultat de personnes qui finalement leur ont dit « toute façon, tu n'arriveras jamais à rien. Toute façon, tu es un incapable. Toute façon, quoi que tu dises, tu as tout faux. Il vaut mieux que tu te taises. » Et de telles personnes portent de mauvais fruits et si elles ne sont pas touchées par l'amour de Dieu, eh bien, elles peuvent rester prostrées dans leur coin, en eux-mêmes, jusqu'à la fin de leur jour, incapables, alors qu'ayant de la part de Dieu reçu de merveilleux talents, de les développer et de permettre à ces talents de servir les autres. Parce que tout le temps, ces phrases qui reviennent et qui ont été comme créatrices de blessures intérieures, voire de morts intérieures, quant à la capacité de développer ses talents. Quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas un sou en poche, on le dit qu'il n'a pas un radis. Voilà quelqu'un qui me ressemble. Mais là aussi, je dirais que des personnes sont considérées en fonction de ce qu'ils ont en poche ou sur leur compte en banque. Certaines personnes sont considérées en fonction de ce qu'elles valent ou de ce qu'elles ne valent pas. En fonction du rang social qu'est le leur. Mais combien quand ces personnes perdent leur rang social, ou à cause d'une difficulté perdent leur compte en banque, voient ceux qui disent être leur ami partir et les quitter. Combien de ceux qui disent être mes amis, lorsque je leur parlais de cet ami merveilleux Jésus, combien alors m'ont quitté et sont partis ? Parce que n'acceptant pas cette foi nouvelle que j'aimais à professer avec zèle. Et puis quelqu'un qui vous prend la tête parce qu'il a besoin de trouver un ami. On dit qu'il vous prend le... Il vous prend le chou. Combien ont besoin de votre bon fruit ? Celui que l'Esprit veut mettre en vous et veut placer dans le cœur de chacun d'entre vous. Et dans le passage que nous avons lu dans le livre de Jean au chapitre 15, nous voyons que la volonté de Dieu, c'est, oui, nous renouveler dans notre intelligence, afin que nous portions du fruit qui demeure et que ce fruit qui demeure permette à d'autres personnes de sentir qu'ils sont aimés, mais aimés comme celui qui nous aime, Dieu qui alors devient notre ami et qui nous permet de revêtir l'identité d'ami pour les autres. Alors, j'aimerais, eh bien, peut-être ce soir, essayer de traduire ce que peut faire ou ce que doit être un ami qui est rempli de la personne de Jésus. Voyez-vous, si nous, l'Église, nous portions réellement ce bon fruit, eh bien, j'aime utiliser cette image qui dit que nous serions comme une grande salade de fruits. Hein, il y a le frère orange, puis la sœur citron, et le frère kiwi, puis la sœur un peu exotique, qui est la sœur mangue, puis le frère banane. Cela ferait une excellente salade de fruits, qui donnerait à l'Église du goût, de la saveur, et qui donnerait en tout cas envie à ceux qui, parce qu'ils ont été blessés, portent de mauvais fruits, eh bien d'être renouvelés dans leur intelligence par l'œuvre de celui qui est venu les chercher, les choisir pour les sauver et les remplir de sa présence et de ce bon fruit. Alors quelques fonctions ou quelques définitions de l'amitié telles qu'à mon avis il faudrait l'entendre. Premier point, je dirais un ami t'aime sans condition, tel que tu es. Jésus t'aime pour tes bons côtés, mais il t'aime également malgré tes mauvais côtés. Autrement dit, si tu es là et que tu as l'impression que tu n'es rempli que de mauvais côtés, j'aimerais te dire, ne change pas, Dieu t'aime comme tu es. Ne change pas, Dieu t'aime comme tu es. Et lorsqu'il viendra te montrer combien il t'aime, alors c'est lui qui, par son esprit en toi, te donnera la capacité de changer. N'essaye pas de faire des efforts pour changer. J'aimerais te dire, tu n'y arriveras pas. Ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tu vas prendre de bonnes résolutions. Mais tu vas te rendre compte au bout d'un moment que malgré tes efforts, tu n'y arrives pas. Voire c'est encore pire qu'avant. Pourquoi ? Parce que tu dois d'abord, avant de changer, réaliser que Jésus t'aime et que c'est lui seul, par son esprit, qui a la capacité de changer ta vie. Et si lui vient mettre son esprit en toi, alors tu porteras de bons fruits. Alors tu seras rempli de cet amour, de cette joie, de cette paix, de cette fidélité, etc. Un ami pense à toi. Il s'intéresse à toi et il le démontre par ses actes. S'il ne te voit pas, il prend de tes nouvelles parce qu'il veut savoir comment tu vas. Un ami s'intéresse à toi, il prend soin de toi. Jésus veut être cet ami. Ne pense pas que tu lui es indifférent, c'est pas vrai. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a donné son Fils parce qu'il aime l'humanité. Et parce qu'il t'aime, Dieu s'intéresse à toi. Un ami aime se trouver dans ta présence. Il apprécie juste les moments qu'il passe avec toi. Il apprécie ta présence. Dieu est en train de me travailler à ce niveau-là, en me disant, ce que j'aime plus que tout, ce n'est pas d'abord que tu cours à droite et à gauche. Ce n'est pas d'abord que tu accomplisses de bonnes œuvres, mais c'est que tu te tiennes dans ma présence. Pour que dans ma présence, tu sois capable de recevoir mon caractère par mon esprit. Et que ce caractère que je mets en toi te pousse alors à faire les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. J'aime ce texte dans le livre de Jean, chapitre 21. Ce texte nous parle du disciple que Jésus aimait, en particulier Jean. Mais il nous parle également de cette pêche miraculeuse. Ou alors que les disciples sont allés pêcher, ils ont eu pêche pleine ou filet plein. Et voilà que pendant qu'ils pêchaient, Jésus était au bord du lac et leur préparait un barbecue. Il y avait mis là quelques poissons et puis il attendait les disciples. Parce que ce qui comptait pour Jésus, c'était d'être avec eux, avec ceux qu'il aimait, en leur présence. Et lorsque vous lisez le texte, vous voyez que Pierre a reconnu Jésus. Alors il s'est habillé et puis il s'est précipité vers lui. Et moi j'ose imaginer que Pierre aurait pu rester à côté de Jésus pour manger ce que Jésus lui avait préparé, avoir une communion avec lui. Et voilà qu'alors que les disciples étaient arrivés pour manger avec Jésus, Pierre retourne à la barque. Et il commence à compter les poissons. Pourquoi je dis qu'il comptait les poissons? Parce que vous lisez que dans le texte, il est marqué qu'il y avait 153 gros poissons. Alors comment peut-on connaître le nombre des poissons si on ne les a pas comptés? C'est logique. Est-ce que vous avez déjà essayé de compter des poissons? Honnêtement. Fut un temps que j'étais poissonnier. Et j'avais appris à décortiquer ou à désarrêter ou à enlever la peau de certains poissons comme les saules. Mais j'avais un problème avec ces poissons. Hein. J'avais l'impression qu'ils étaient plus vivants que vivants quand je les tenais en main. Parce que aussitôt que je les attrapais, ils glissaient. Et ils allaient dans tous les sens. Et je me suis dit, en analysant cela, bien que je pense que Pierre ait été moins maladroit que moi, évidemment, lui étant un pêcheur professionnel, mais quand même, je me suis dit, pour compter 153 gros poissons, il fallait les prendre dans les mains, l'un après l'autre, pour les poser ailleurs. Et puis certainement qu'il lui arrivait de voir, oups, oups, glisser un poisson. Je ne sais pas combien de temps il lui a fallu pour les compter. Mais en tout cas, suffisamment de temps pour que Jésus puisse peut-être s'impatienter. Et puis quand Pierre enfin avait compté ses poissons, quand Pierre enfin avait compté l'ampleur du miracle de Dieu, voilà qu'il arrive vers Jésus et que Jésus enfin peut prendre du temps avec Pierre. Et Jésus regarde Pierre et lui dit, mais Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, oui, bien sûr, tu sais que je t'aime. Puis il lui dit, mais m'aimes-tu plus que ceci? Alors ceci, est-ce que ça veut dire plus que les autres? Est-ce que ça voudrait peut-être dire plus que les poissons qu'il avait comptés? M'aimes-tu plus que le miracle que je viens de faire? M'aimes-tu plus que ces 153 poissons qui ne sont finalement que le miracle que je t'ai accordé, mais qui n'est ce miracle pas aussi important que le Dieu du miracle, qui t'attendait tranquillement ici au bord et qui ne voulait que manger avec toi? Jésus veut être cet ami qui demande cette relation avec nous, cette relation amoureuse. Il nous attend. Il nous attend dans le secret de notre chambre. J'avais un jour écouté l'histoire de ce serviteur de Dieu qui, depuis longtemps, n'avait plus réellement pris de temps pour Jésus. Et c'était un jour accordé dans son agenda, 3 jours. Il avait loué une chambre d'hôtel et puis il est allé dans un hôtel où personne ne connaissait. Puis voilà que pendant 3 jours, il prend du temps pour Jésus. il rétablit sa relation avec Jésus. Et au bout du troisième jour, il fut étonné de voir que de l'eau commençait à tomber de je ne sais où. Alors il regarde vers le plafond, rien d'humide. Il continue à prier et puis de l'eau de nouveau en gouttes qui tombe. Et puis cet homme de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que cette eau qui tombe sur moi? Et Jésus de lui répondre, eh bien je suis tellement heureux que tu aies pris le temps de reprendre du temps pour moi, que je pleure de joie parce que j'attendais ce moment. Un ami, oui, c'est quelqu'un qui aime prendre du temps avec nous. Un ami est capable de t'écouter. Il prendra autant de temps qu'il le faudra. Quand un ami te fait des promesses, il ne les oublie pas. Il les tient. Ce qu'un ami te promet, il l'accomplira. Normalement. En tout cas, ce que Jésus, l'ami, promet, il l'accomplit. Jésus ne se dérobe pas de ses promesses. Et quand vous lisez sa parole qui est remplie de promesses, vous ne pouvez que savoir qu'il va les accomplir. Ce qu'il dit, il le fait. Et en cela, Jésus est un ami merveilleux. Lisons la parole de Dieu. Nourrissons-nous des promesses de ce fidèle ami qui veut accomplir ce qu'il a dit au travers de sa parole pour notre propre vie. Amen. Et si vous établissez avec Dieu cette relation d'amitié, alors vous pouvez être certain qu'il accomplira sa parole pour chacun d'entre vous. Les promesses, ce n'est pas juste pour Claude Gréder ou Samuel Peter Schmitt ou Jean. Il y en a aussi pour vous. Et sa parole, elle est pour chacun d'entre vous. Ou pour Jean-Marie Ribet. Je voyais qu'il était un peu attristé. Un ami est quelqu'un qui te respecte. Il ne va pas piétiner ou investir ton jardin secret. Il ne fera pas de voyeurisme. Mais il saura écouter avec beaucoup d'attention et respecter les décisions que tu prends. Il est dit, et Sam parlait tout à l'heure du livre de l'Apocalypse, évidemment le passage certainement le plus connu de l'Apocalypse, c'est Apocalypse 3:20. Voici, je frappe à la porte de ton cœur. Mais Jésus ne rentre pas de force, il respecte ta décision. Mais si toutefois tu veux lui ouvrir, alors il rentrera et il aura une relation avec toi. Une relation d'amitié qu'il veut établir et faire grandir pour toi. Un ami est capable de ne pas te juger. Il connaît tes points forts, mais il est également capable d'écouter tes défaillances. Il se réjouit pour tout ce qu'il y a de bon en toi. Un ami non seulement ne dit pas de mal de toi, mais il te défendra devant ceux qui t'accusent ou disent du mal de toi. N'est-ce pas ce que Jésus fait devant le trône de la grâce ? Alors que l'ennemi de nos âmes essaye de nous accuser, lui, il est là pour nous défendre. Et pour dire, non, tu n'as pas le droit de dire de mauvaises choses sur lui, il est mon enfant, il a été justifié par ma grâce. Amen. Il est l'ami fidèle qui nous défend en toutes circonstances. Un ami ne te caresse pas dans le sens du poil. Pour garder ton amitié, il est sincère et cherchera toujours à te dire la vérité avec beaucoup de douceur. Qu'importe si tu l'envoies balader, son désir est de te permettre de progresser. Et si vraiment il est ton ami et à cause de cela, doit te dire des choses qui te déplaisent et risque de se faire éjecter, eh bien il prend le risque parce que son désir profond, c'est de te voir progresser. Amen. Et en cela aussi, Jésus est un ami merveilleux qui, pour nous permettre de progresser, eh bien, nous enverra peut-être l'une ou l'autre épreuve. Toujours des épreuves que nous serons capables de supporter. Mais des épreuves, en tout cas, qui, même si pour un temps, nous éloignent de Dieu, de par notre attitude. Ne vous est-il jamais peut-être arrivé, ne comprenant pas l'épreuve, de dire Dieu et de montrer le poing vers le ciel? Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'ami aime en tout temps. Proverbe chapitre 17, verset 17. Et alors que Job était maltraité par ses trois amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, il est dit dans Job chapitre 12, verset 4, « Mes amis se sont détournés de moi. » Mais à la fin de l'histoire de Job, alors que Job avait été rétabli, voici ce qu'il est dit, Job chapitre 42, verset 10, « Il pria pour ses amis. » Amen. Un ami est prêt à être maltraité à ta place, peut-être sans rien dire. Il sait que tu as tort, mais parce qu'il est ton ami, il est prêt peut-être à se laisser accuser injustement, tellement il t'aime. N'est-ce pas ce que Jésus a vécu ? Il a été accusé, maltraité. Qui mieux que lui peut dire qu'il l'a été injustement ? Parce qu'il a voulu rétablir cette relation d'amitié, il a été obligé de passer par là. Il n'a pas montré un doigt accusateur vers ceux qui le clouaient sur la croix, en l'occurrence chacun d'entre nous. Il n'a pas établi un jugement pour ceux qui le clouaient sur la croix, mais il a établi son règne dans le cœur de quiconque veut le recevoir au travers de cette œuvre. Un ami est prêt à donner sa vie pour toi. Et le texte que nous lisions tout à l'heure est vrai, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et enfin, et je terminerai par cela, un ami t'encouragera toujours à t'approcher de celui qui est le plus incomparable et le plus merveilleux des amis. Le seul ami parfait dans ses comportements, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait. Celui qui jamais ne te décevra. Cet ami, c'est Jésus. Et celui qui est ton ami se donnera toujours, toujours la peine, alors qu'il te voit peut-être pour un temps t'éloigner de ce merveilleux Jésus, de te chercher, de te ramener, de te diriger tout à nouveau vers ce chemin sur lequel Jésus veut marcher avec toi. Alors comment être rempli de cet amour ? Ce soir, simplement, recevez celui qui veut vous remplir de cet amour qui est cité dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Laissez-moi pour terminer simplement lire ce passage-là qui définit l'amour d'un ami. Moi, j'ai lu ce passage-là et c'est vrai qu'on s'était déjà exercé ou ça avait été déjà dit que finalement, il fallait qu'on puisse y mettre notre nom. À la place de l'amour ou de la charité, il fallait mettre le nom de chacun d'entre nous. Samuel est patient. Il est plein de bonté. Moi, je dis pour Samuel parce que pour moi, je ne peux pas le dire. Mais je voudrais mettre l'ami à la place de ce mot amour. Et dire bien l'ami où Jésus est patient. L'ami est plein de bonté. Il n'est point envieux. L'ami ne se vante point. L'ami ne s'enfle point d'orgueil. L'ami ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. L'ami ne se réjouit point de l'injustice, mais l'ami se réjouit de la vérité. L'ami excuse tout. L'ami croit tout. L'ami espère tout. Et l'ami supporte tout. Laissons-nous remplir de ce merveilleux ami qu'est Jésus-Christ. Laissons-nous remplir de son esprit qui mettra en nous cette capacité d'être rempli de l'amour qui vient d'être cité dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et voyez-vous, si vous vous laissez remplir de cet amour, alors Dieu, non pas vous, mais Dieu, parce qu'il vous a choisi, vous rendra capable d'être l'ami de quelqu'un d'autre qui aujourd'hui porte de mauvais fruits, qui aujourd'hui est malheureux, qui aujourd'hui a été tellement blessé qu'il ne comprend même pas le mot amitié. Vous pouvez lui expliquer, lui sortir la définition du dictionnaire, il ne peut pas le comprendre. Peut-être qu'intellectuellement il le comprend, mais dans son cœur il ne peut pas le comprendre. Mais Dieu ne veut-il pas qu'au travers de vous et de votre comportement, celui à qui vous apportez cette amitié puisse le saisir ou le comprendre. Soyez ce soir remplis de la présence de l'Esprit de Dieu. Et si vous ne connaissez pas cet ami, alors sachez une chose, n'essayez pas de changer. Il vous aime comme vous êtes. Et si vous comprenez qu'il vous aime comme vous êtes, alors venant habiter en vous, lui fera son travail en vous. Lui vous changera, lui vous permettra de progresser, d'évoluer et de devenir l'ami du plus merveilleux des amis, Jésus-Christ. Amen. Baissons un instant notre tête, Samuel, si tu veux bien.
Pendant que nous avons nos yeux fermés, certainement que ce soir, les uns ou les autres ont pu, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans ce qui a été dit. Vous êtes peut-être là et l'amitié, c'est un mot auquel vous ne croyez plus depuis longtemps. À quelque part, vous avez fait le deuil de ce mot-là parce qu'il vous semble que chaque fois, eh bien, que vous avez fait confiance, la déception et la détresse a été à la hauteur de la confiance que vous aviez mise dans la personne que vous pensiez être un ami. Et ce soir, Bertrand, tu es suffisamment clair, il y a un ami qui ne déçoit jamais. Et son nom, c'est Jésus. S'il y a parmi nous quelqu'un dans ce lieu, pendant que Aline prend simplement un chant, ce qu'elle désire, alors que nos yeux sont fermés, recueillons-nous. Si vous êtes là et vous n'avez jamais fait cette démarche, de lui dire, je veux venir à toi tel que je suis. Moi, je ne suis pas digne d'être ton ami, mais toi, tu t'es proposé à devenir le mien. Je ne peux qu'être honoré par une telle proposition. Vous savez, vous avez des gens qui vous offrent leur amitié, c'est pas forcément toujours un cadeau. Au vu de ce qu'ils sont, de la manière dont ils vivent, vous pouvez rester sur vos réserves. Mais il y a des amitiés qui honorent. Il y a des amitiés qui honorent. Parfois, pouvoir dire « je suis l'ami de telle personne », cela honore. Eh bien, je vais vous dire que ce soir, le roi des rois, le créateur de toutes choses, se propose, lui, de devenir votre ami. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur! Si la plus réputée des personnes dans ce pays vous proposait de devenir votre ami, vous seriez certainement honoré, mais qu'est-ce à côté du roi des rois, du créateur des cieux et de la terre, de celui qui délibérément donne sa vie? Alors si vous voulez lui répondre ce soir en disant, je suis honoré de pouvoir accepter un ami comme toi, et je veux marcher avec toi, je veux me confier en toi, j'aimerais prier pour vous.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.